Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 28 septembre 2021. Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous. À la une de nos informations, en Guinée, la junte dévoile une charte de transition. Les militaires n'ont toutefois pas fixé la durée de cette période. Deux nouvelles arrestations ont été opérées en RDC dans l'enquête sur l'assassinat des experts de l'ONU. Les prévenus sont accusés d'avoir été en possession de la vidéo du meurtre des deux travailleurs onusiens. L'armée nigériane accusée d'une autre bavure sur des civils lors de ces opérations. Au moins 20 pêcheurs ont été tués lors d'un raid aérien contre des djihadistes au Nigeria. Les pénuries d'essence s'aggravent au Royaume-Uni. La majorité des stations-service dans le pays est à court de carburant, avec des conducteurs excédés faisant la queue pendant des heures. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. En Guinée, la junte a dévoilé les organes chargés de conduire la transition vers la restauration d'un pouvoir civil élu. Mais la durée de cette transition n'est toujours pas connue. Le point avec Abdourahman Dia.
La charte de la transition assigne aux nouvelles autorités une série de missions, dont l'élaboration d'une nouvelle constitution et l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes. Selon un communiqué signé par le nouvel homme fort de Conakry, le colonel Mamadou Doumbia, la transition sera conduite par quatre organes, le CNRD, instauré par les militaires après le putsch du 5 septembre, le président de la transition, un gouvernement dirigé par un premier ministre civil et un organe législatif, le Conseil national de la transition. Aucun membre de ces organes ne pourra se présenter ni aux élections nationales ni aux élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. La durée de cette transition sera fixée d'un commun accord entre les forces vives de la nation et le CNRD, alors que la CEDEAO donne un délai de 6 mois aux putschistes pour organiser des élections. L'ambassadeur de Guinée à l'ONU a indiqué hier à l'Assemblée générale des Nations Unies que la révision des listes électorales et l'élaboration d'une nouvelle constitution précéderaient la tenue des élections.
La ministre française des Armées, Florence Parly, a accusé le pouvoir malien de s'essuyer les pieds sur le sang des soldats français, fustigeant sa mauvaise foi quant aux engagements pris auprès de la communauté internationale. La junte au Mali s'est engagée à rendre le pouvoir aux civils à l'horizon de février 2022 avec l'organisation d'élections législatives et présidentielles, mais le chef du gouvernement par intérim a déclaré que cette échéance pourrait être repoussée de quelques mois. La France bénéficie du soutien continu de Washington dans sa lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel, a déclaré lundi le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, à son homologue française. Le secrétaire Austin a applaudi le leadership français dans la lutte contre le terrorisme dans la région et a assuré, Madame Parly, du soutien continu des États-Unis pour cette mission importante, a indiqué le Pentagone dans un communiqué. 5 gendarmes maliens qui escortaient un convoi d'une entreprise minière ont péri ce mardi dans une attaque djihadiste présumée dans l'ouest du Mali. L'attaque, l'une des plus meurtrières pour l'armée dans cette zone, s'est produite à proximité de l'endroit où 2 camionneurs marocains avaient été tués et un autre blessé le 11 septembre, à quelques centaines de kilomètres au nord de Bamako, sur un important nœud de communication vers la Mauritanie et le Sénégal. 4 autres gendarmes ont été blessés et la force malienne a perdu 2 véhicules, un brûlé et un emporté par les assaillants. Dans le nord-est du Nigeria, au moins 20 pêcheurs ont été tués dans un raid aérien de l'armée dimanche, rapporte des sources militaires. Qatar, Daban, Massara, sur la rive du lac Tchad, est une porte vers les camps du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest sur plusieurs îles. Nathalie Barge.
Selon les services de renseignement, la frappe aérienne était fondée sur l'information crédible d'un rassemblement de combattants de l'ISWAP dans le village depuis mercredi. La surveillance aérienne et les rapports de terrain indiquaient qu'ils préparaient une offensive. C'était une attaque préventive pour détruire les projets des terroristes, assure une source militaire, ajoutant que l'armée ne s'attend pas à ce qu'un civil innocent soit à cet endroit et que quiconque s'y trouve fait certainement partie des terroristes. Les djihadistes ont récemment levé l'interdiction qu'ils avaient imposée aux pêcheurs sur ce territoire, les autorisant à exercer leur activité contre une taxe. Le 16 septembre dernier, 9 civils ont été tués dans une frappe aérienne de l'armée sur un village de l'état de Yobe. En juillet 2019, au moins 13 civils ont péri dans une attaque aérienne sur un village du nord. Et en janvier 2017, au moins 112 personnes ont perdu la vie dans un raid sur un camp de déplacés à Ran, près de la frontière avec le Cameroun.
Des combats meurtriers ont opposé des djihadistes de Boko Haram et du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, lundi dans le nord-est du Nigeria, ont indiqué aujourd'hui des sources sécuritaires et des civils. De nombreux combattants de Boko Haram lourdement armés ont attaqué lundi l'île de Kirtaoulgo, située sur les pourtours nigériens du lac Tchad et tenue par les djihadistes de l'ISWAP. Après des heures de combat, ils ont réussi à prendre le contrôle de cette île qui servait de port à l'ISWAP pour importer des armes et des vivres dans les territoires sous son contrôle, selon des sources sécuritaires et des pêcheurs locaux. En République démocratique du Congo, deux autres personnes ont été arrêtées hier à Kananga, dans le centre du pays, en lien avec une vidéo du meurtre en 2017 de deux experts de l'ONU. Les détails avec Jacques Aristide.
Le parquet militaire a interpellé un avocat venu librement se présenter au magistrat, de même qu'un habitant de Bunkonde, le village où avait eu lieu le meurtre. D'après un haut magistrat militaire, le parquet détient maintenant quatre personnes, toutes accusées d'avoir été en possession d'une vidéo presque immédiatement après le meurtre des deux experts de l'ONU. En août dernier, un vidéaste, Israël Tomba, a été arrêté. Un journaliste, Sosten Kambidi, correspondant à Kananga, de l'AFP et du média congolais en ligne actualité.cd a lui été interpellé la semaine dernière. RSF a appelé à la libération de Sosten Kambidi, rappelant qu'il n'avait jamais diffusé la vidéo et l'avait transmise aux autorités. Les quatre hommes sont accusés par le parquet militaire de terrorisme, d'association de malfaiteurs et d'insurrection. Ils encourent la peine capitale. L'Américain Michael Sharp et la Suédoise d'origine chilienne Zaïda Catalan, ainsi que leurs quatre accompagnateurs congolais ont été tués le 12 mars 2017 dans la province du Kasaï central. Une trentaine de personnes sont jugées pour ces meurtres, mais leur procès ouvert le 5 juin 2017 piétine.
Le patron de l'OMS s'est excusé aujourd'hui du comportement des employés de l'organisation qui se sont livrés à des violences sexuelles sur des dizaines de personnes en République démocratique du Congo. Le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus a promis des conséquences sévères aux responsables lors d'un point de presse sur les conclusions d'une commission d'enquête indépendante. Ces abus sexuels ont été commis par des membres du personnel, aussi bien embauchés localement que par des membres internationaux des équipes chargées de lutter contre l'épidémie d'Ebola qui a sévi en RDC entre 2018 et 2020. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a réclamé ce mardi à l'OMC un allègement d'urgence des droits de propriété intellectuelle des vaccins et autres technologies médicales utilisées contre le Covid, alors que les pays pauvres manquent cruellement de doses. Des partis politiques tunisiens ont dénoncé ce mardi le pouvoir absolu que s'est arrogé, selon eux, le président Kais Saied, avertissant que ces décisions controversées pourraient faire sombrer le pays dans la violence. Quatre formations de gauche ont vivement critiqué lors d'une conférence de presse à Tunis les mesures prises depuis le 25 juillet par M. Saied, notamment le limogeage du gouvernement, ainsi que la suspension du Parlement et de chapitres clés de la Constitution, estimant qu'elles débouchaient sur un pouvoir absolu concentré aux mains d'un seul homme.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Royaume-Uni, de longues files d'attente se sont formées ces derniers jours devant les stations-service du pays. Les automobilistes, souvent sur les nerfs, s'y sont rués après l'annonce par certains distributeurs de la fermeture de points de vente en raison du manque de chauffeurs routiers pour acheminer le carburant. Les précisions de John Lydon.
Cette situation exceptionnelle est la dernière conséquence en date des pénuries de main-d'œuvre causées par la pandémie et le Brexit. La pénurie touche aussi les organisations de médecins, d'infirmiers ou encore de personnel pénitentiaire qui souhaitent que les travailleurs essentiels aient un accès prioritaire aux stations-service dont beaucoup sont à sec. Si nous n'avons pas assez de carburant, cela affectera nos patients, a plaidé mardi sur Sky News le vice-président de la British Medical Association. Il a expliqué que les médecins ne pouvaient perdre 2 ou 3 heures à patienter devant les stations-service alors qu'ils ont des malades à soigner. Certaines écoles envisagent même de repasser en enseignement à distance si le problème persiste. Face à la crise, le gouvernement a appelé les chauffeurs de l'armée à se préparer à livrer, si nécessaire, du carburant aux stations-service. Pour tenter de résoudre la difficulté de recrutement, le gouvernement avait déjà annoncé assouplir temporairement les règles en matière des visas afin d'attirer davantage de chauffeurs routiers étrangers.
Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec John Lindon.
Le Gabon entend diversifier son portefeuille et augmenter ses rendements. Pour cela, son fonds souverain vient d'annoncer son intention de réaliser de nouveaux investissements à l'étranger. À en croire Financial Afrique, le pays est déjà présent au Nigeria, en Côte d'Ivoire et au Togo. Le fonds de fortune prévoit également d'obtenir une cote de crédit selon son directeur général. Les ministres des Finances de l'Union européenne devraient retirer la semaine prochaine les Seychelles, la Dominique, de la liste noire européenne des paradis fiscaux, selon des documents consultés par Reuters, tandis que le Panama a échoué dans sa demande de retrait. La liste a été établie en 2017 pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale généralisée. Elle est mise à jour périodiquement pour retirer ou ajouter des juridictions en fonction de leur réforme en matière de gouvernance fiscale. Ici aux États-Unis, le projet de loi prévoyant le relèvement du plafond de la dette des États-Unis et le financement des administrations fédérales pour éviter la paralysie communément appelée shutdown n'a pas été adopté lundi par le Sénat, très divisé, où les républicains ont obtenu suffisamment de voix pour empêcher la tenue du vote du texte. Les pairs démocrates du président américain Joe Biden, qui dispose d'une majorité étroite dans les deux chambres du Congrès, n'ont plus que 3 jours pour éviter un shutdown dans la mesure où le financement actuel des services fédéraux prend fin jeudi soir.
Place maintenant au sport avec Yakuba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Le Kenyan Victor Wanyama met fin à sa carrière internationale. Celui qui a marqué la sélection kenyane durant la dernière décennie tire un trait sur l'équipe nationale à seulement 30 ans. Nous avons partagé de bons moments ensemble et je suis fier d'avoir été votre capitaine et leader. Le moment est venu de laisser la main à la nouvelle génération pour qu'elle puisse imprimer sa marque et emmener le pays vers d'autres sommets, a expliqué sur Twitter le milieu de terrain du CF Montréal qui n'a pas revêtu le maillot des RMB Stars depuis novembre 2020. En 14 ans, Wanyama compte 64 sélections avec l'équipe nationale du Kenya. En Europe, les matchs de la deuxième journée de la Ligue des Champions se jouent ce soir. Au programme, le choc entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Le RB Leipzig reçoit le club Bruges. Dans le groupe B, l'AC Milan, battu en ouverture à Anfield par Liverpool 3-2, tentera de lancer sa compétition contre l'Atlético Madrid. Le Borussia Dortmund accueille le Sporting Portugal. L'Inter Milan est en déplacement en Ukraine pour y affronter le Shakhtar Donetsk. Solide leader de Liga, le Real Madrid est le grandissime favori contre le Sheriff au Santiago Bernabéu. Basketball, la star de Brooklyn, Kyrie Irving, n'a pas participé physiquement au Media Day d'avant-saison NBA hier dans les installations des Nets. La réglementation de la ville de New York exige de fournir une preuve de vaccination contre le COVID-19. Le maire de New York, Bill de Blasio, a émis un décret imposant aux sportifs professionnels de prouver qu'ils ont reçu au moins une dose du vaccin pour pouvoir s'entraîner ou jouer dans les enceintes de leur club. Outre la municipalité de New York, celle de San Francisco exige que les sportifs professionnels présentent une preuve de vaccination pour participer aux rencontres à domicile. Le Canadien Andrew Wiggins, qui évolue aux Golden State Warriors et refuse de se faire vacciner, a demandé une exemption pour motif religieux, refusé par la NBA. Tennis, l'ex numéro 1 mondial, la japonaise Naomi Osaka, affirme qu'elle serait probablement bientôt de retour sur les courts. Elle dut ressentir à nouveau l'envie de rejouer au tennis après plusieurs mois compliqués sur le plan mental. « Je sais que je vais rejouer », a expliqué la double vainqueur de l'US Open 2018 et 2020 et de l'Open d'Australie 2019 et 2021. Osaka a déclaré début septembre qu'elle souhaite faire une pause pendant un certain temps après son élimination au troisième tour de l'US Open, suivie d'une conférence de presse où elle a craqué nerveusement. Elle s'est retirée en cours de tournoi à Roland-Garros et a fait l'impasse sur Wimbledon, révélant avoir des problèmes d'anxiété marqués par plusieurs épisodes dépressifs.
Page de sport signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En Guinée, le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, a dévoilé les organes avec lesquels il compte conduire la transition vers la restauration d'un pouvoir civil élu. La charte de la transition signée par le colonel Doumbouya, président du Comité national du Rassemblement pour le développement, prévoit, entre autres missions, l'élaboration d'une nouvelle constitution et l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes. La transition sera conduite par quatre organes, le CNRD, le président de la transition, chef du CNRD, un gouvernement dirigé par un premier ministre civil et un organe législatif, le Conseil national de la transition. Pour une analyse, Yacouba Ouedraogo a joint à Conakry, en Guinée, le politologue Kabiné Fofana.
C'est une charte qui est un peu celle en vigueur dans pas mal de pays qui ont connu le putsch avec des organes essentiels. Hein. Quand on prend par exemple le CNT, au Tchad, vous en avez 30% de jeunes, 30% de femmes. Vous avez aussi 30% de députés de l'Assemblée sortante. En Guinée, la spécificité, c'est qu'il n'y aura pas de députés de l'Assemblée dissoute.
La charte exclut les anciens membres du gouvernement Condé ou les anciens présidents d'institutions d'Alpha Condé, de ses organes. Qu'est-ce que vous en pensez?
En prenant ces décisions, la junte met en quelque sorte en application les discours du colonel Mamadou Doumbouya qui disait qu'il n'y aura pas de recyclage.
Est-ce qu'il ne pourrait pas crier, par exemple, à l'exclusion?
De voir ce qu'il faut entendre là-dessus, pour dire que ça peut être perçu comme une forme d'exclusion, mais sauf que la junte apporte un bémol à cela en accordant, par exemple, 15 places aux partis politiques, ce qui suppose naturellement que le RPG pourra faire partir à l'Assemblée des représentants. Et est-ce comment cela va s'organiser? Est-ce que ce sera les plateformes politiques qui vont envoyer des représentants? Mais voilà, je pense que le bémol à ce qu'ils pourraient penser que c'est une forme d'exclusion se trouve à ce niveau, quoi. Donc voilà, ils peuvent donc dire que oui, le RPG n'est pas exclu, c'est un parti politique légal dont les activités ne sont pas remises en cause.
Sur la mission essentielle de la transition, la charte indique l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes, mais bien avant, un nettoyage, si je peux m'exprimer ainsi, du fichier électoral. Cela vous semble sur la bonne voie?
Je crois que là-dessus, que ce soit le RPG ou que ce soit l'UFDG et tous les autres partis, je pense que chacun s'accorde sur le fait qu'aujourd'hui, il faut revoir le fichier électoral parce que ça reste le point le plus important de la compétition. Et là-dessus, je pense qu'aucun d'entre eux ne trouvera objection, même si je pense que ce travail ne sera pas si compliqué parce qu'il y a un travail de nettoyage du fichier à été entamé, ce qui a même permis d'une certaine façon à la tenue des élections d'octobre avec la participation de l'UFDG. Je pense que tous les partis politiques ont salué ça et même les organisations internationales.
Sur la durée de la transition, la CEDEAO exigeait 6 mois. La junte dit que cette durée va être fixée en accord avec les forces vives de la nation. Ça grince peut-être?
Mamadi Doumbouya s'inscrit dans une grande logique d'opération de charme. La durée de la transition, en principe, ceci ne devrait pas poser problème, parce que elle doit être fixée à l'aune, notamment des missions qu'on confie à la transition. Donc le contenu de la transition doit normalement définir la durée.
Le politologue Kabiné Fofana joint à Conakry en Guinée. La réorganisation de la présence militaire française au Sahel avec la fin programmée de l'opération Barkhane et l'ouverture des discussions entre le Mali et la société militaire privée russe Wagner continue de peser sur les relations entre Paris et Bamako. Doit-on craindre une détérioration des relations entre les deux parties? Pour une analyse, Nani Talani a joué en France, Cédric Abba, journaliste et analyste des questions africaines, particulièrement celles du Sahel.
Je ne vois pas aujourd'hui de possibilité de recul pour l'un et l'autre. La France a officiellement dit qu'elle va se retirer. Les Maliens ayant dit qu'ils ne vont pas renoncer à Wagner, ça risque de créer au plan intérieur une situation compliquée, puisque à moins que ce soit la Russie elle-même qui s'implique, il n'est pas évident qu'une société privée puisse aujourd'hui gérer le défi sécuritaire au Mali. Et les Maliens vont se retrouver seuls face au groupe armé djihadiste. Si la France retire son armée, la force Takuba viendra. Je n'en suis pas sûr. Il y a de risques que les terroristes se réorganisent et qu'on arrive à une situation où ils vont gagner du terrain au Mali, sauf si on trouve d'autres alternatives que par exemple des forces africaines ou des forces de la CEDEAO ou bien à remplacer le vide que la France créera en partant. Les Français aussi ne s'y sont pas bien pris. Comment on ne menace pas un pays en disant que bon, si Wagner vient, nous allons partir. Ça peut blesser l'oreille du partenaire et ça peut créer les conditions dans lesquelles on est. Il y a peut-être d'autres manières plus diplomatiques de convaincre les Maliens de ne pas faire venir Wagner.
Est-ce qu'on ne peut pas comprendre la frustration de la France lorsqu'on voit tous les soldats français qui ont été tués au Mali?
Non, je ne pense pas. Lorsque la France est intervenue en janvier 2013 au Mali avec l'opération Serval, par reconnaissance, il y a même des familles maliennes qui ont donné le nom de Damien Boutet, le premier soldat français à tomber à leur enfant. Je pense qu'il y a aujourd'hui une culture diplomatique en France qui doit évoluer. Je ne suis pas sûr que ce soit très élégant de décider, par exemple, que Barkhane va s'en aller du Mali et sans informer que les dirigeants maliens l'apprennent à la télé ou à la radio. Il y a d'autres canaux. La France aussi doit faire son autocritique dans cette affaire, plutôt que de s'en prendre comme ça au Mali en pensant que les Maliens sont des gens ingrats, que les soldats français sont morts. Et il y a plus de soldats français qui ont été tués en Afghanistan qu'au Mali, alors que le Mali a une histoire commune avec la France. Les Maliens sont venus mourir pour la France ici. On ne peut pas non plus l'oublier au moment où la France en avait besoin. Cette histoire commune doit amener à réfléchir à des solutions qui ne soient pas blessantes pour l'un et l'autre partenaire.
Une médiation entre les deux parties est-elle possible pour éviter que la situation ne se détériore?
Je crois qu'une médiation est tout à fait possible parce que le Mali appartient au G5 Sahel et tout ce qui touche la sécurité du Mali concerne les autres pays. Nous voulions pas que la menace terroriste est partie du Nord Mali pour gagner le Niger, elle est partie du Nord Mali pour gagner le Burkina Faso et aujourd'hui elle menace de partir du Mali pour gagner la Côte d'Ivoire. Donc comme il y a 5 pays dans le G5 Sahel et que c'est le Mali aujourd'hui qui a une difficulté avec la France, les autres pays peuvent convoquer un sommet extraordinaire ou en tout cas vouloir faire une médiation entre la France et le Mali pour trouver un moyen terme. Peut-être que si le Mali définit un mandat précis pour la société Wagner, la France pourrait accepter de maintenir ce soldat. Les discussions sont possibles, à mon avis, tout n'est pas perdu.
Sédi Kaba, journaliste et analyste des questions africaines, particulièrement celles du Sahel.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Bénin, les grossesses précoces en milieu scolaire ont connu une nette progression malgré les nombreux efforts consentis par le gouvernement et la société civile ces dernières années. Pour protéger les élèves filles, mais également les enseignants, le gouvernement pense cette année redoubler d'efforts pour bannir le harcèlement sexuel et empêcher les relations intimes entre les acteurs de l'école. Le reportage à Cotonou de notre correspondante Ginette Fleur-Adandé.
Au total, 9369 cas de grossesse enregistrés en milieu scolaire de 2016 à 2020 selon des chiffres publiés par le ministère de l'enseignement secondaire. Un chiffre record qui interpelle parents et responsables au niveau du secteur de l'éducation. Selon les données publiées par le même ministère, les auteurs de ces grossesses sont notamment des élèves mais aussi d'autres acteurs extrascolaires. Rachel préparait le baccalauréat lorsqu'elle est tombée enceinte. Une expérience qu'elle ne souhaite à aucune autre fille, selon ses dires.
Je suis tombée en état. Ça n'a pas été facile pour moi. Mes parents n'étaient pas du tout contents de moi. Mais j'ai su garder la grossesse difficilement, car il n'y avait pas de moyens. Mais au fil du temps, j'ai perdu l'année. Là. Je n'ai pas pu aller en classe. Mais par la suite, j'ai compris que ne sert à rien de tomber en état sous les bras.
Selon les experts, plusieurs facteurs sont en cause, dont notamment la mauvaise interprétation des prescriptions religieuses, le regard communautaire sur la femme et la pauvreté. Gilbert Botton est un veuf qui s'est retrouvé seul devant l'éducation de ses enfants, dont trois filles. Deux d'entre elles ont abandonné les cours parce qu'elles sont tombées enceintes. Il évoque une réalité inquiétante à laquelle les autorités doivent trouver une solution efficace et définitive.
On veut faire comme on a veut faire, on veut faire ci, on veut ça. Surtout avec l'évolution de la technologie où nous n'avons pas, de téléphone portable, de télévision, des films, n'est-ce pas, que les enfants se permettent, n'est-ce pas, de regarder. Ajouter à cela leur évolution biologique qui les amène naturellement à aller vers le sexe.
Pour Marie-Élise Bédo de l'Association des femmes juristes du Bénin, les filles sont les véritables perdantes dans cette affaire. Elle invite le gouvernement à réellement se pencher sur la question.
J'ai découvert, surtout dans la zone nord de notre pays, que ce sont les parents eux-mêmes qui trouvent que l'école est trop longue et on pousse les filles pour des raisons alimentaires, des raisons économiques. Et on leur demande carrément, ça les gêne pas d'envoyer les enfants avoir des relations sexuelles avec professeurs parce qu'ils pensent qu'il y a plus d'argent là. Ça, c'est une vérité qu'il faut qu'on se dise.
Le gouvernement a d'ailleurs entrepris de doter le Bénin d'une loi pour protéger la femme. Un avant-projet de la loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme a été présenté aux députés le 23 septembre dernier. L'objectif poursuivi est principalement le renforcement de la protection de la femme contre les atteintes. De Cotonou, Jeanette Fleur Adanlé pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, les forces de sécurité ont été accusées de violations des droits humains dans leur guerre contre les groupes djihadistes. Ces critiques ont poussé l'armée burkinabé à mener une toute autre bataille, celle de gagner les cœurs et les esprits des citoyens. D'où l'idée d'avoir recours aux soldats chanteurs qui mettent en exergue leurs talents pour améliorer l'image des militaires. Les soldats chanteurs du Burkina, c'est un reportage de Claire-Marc Dugol à Ouagadougou. Le récit est signé Jacques Aristide.
L'armée burkinabé tente de redorer son blason en chanson. Général Yak, c'est le nom de scène du sergent Yacouba Sourabier. Il est l'un des 15 soldats burkinabés qui chantent la vie sur le champ de bataille, les pertes et la lutte contre l'ennemi. Ces soldats chanteurs veulent conquérir le cœur des Burkinabés et obtenir leur soutien dans la guerre que mène le pays contre les groupes djihadistes.
Là, comme on le disait, qui parle de nos soldats, voilà, nos forces de défense et de sécurité, et qui sont au front et même ceux qui ont perdu la vie. Nous avons en tout cas dédié cette chanson à nos soldats, à eux, pour les faire comprendre qu'ils sont nos héros. Ils sont des vaillants hommes pour la nation. Et leurs familles sont aussi à encourager parce que ces familles ont perdu des frères ou encore ont des hommes au front.
Le réalisateur burkinabé San Rémy Traoré, un frère qui fait partie des forces de sécurité. C'était donc tout à fait naturel pour lui de produire des vidéoclips pour les soldats chanteurs. Il veut que les militaires parviennent à inspirer confiance.
Il fallait déjà montrer la force que nos soldats ont de mener cette bataille-là, mais aussi rassurer les populations qu'ils puissent comprendre qu'en fait, ils peuvent compter sur des gens, ils peuvent compter sur des personnes qui sont sur le terrain, qui sont là pour défendre la cause nationale, qui sont là pour les défendre.
Diore voit à ses frères tombés, traînant ses pieds dans la poussière, le rêve de revoir sa tendre famille. Kalash même le sourit aux lèvres.
Les des vidéoclips qui n'enchantent pas tout le monde. Pour les détracteurs, l'armée doit plutôt faire davantage pour promouvoir les droits humains. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés évoque notamment les 180 habitants abattus à Djibo dans le nord du pays, une tuerie rapportée par Human Rights Watch. Le gouvernement a promis une enquête sur ce drame il y a plus d'un an. Daouda Diallo est membre de ce collectif burkinabé.
Donc quelque part, le moral peut être remonté avec les sons patriotiques, avec les sons d'artistes, mais je souhaiterais que les artistes intègrent dans leur message que, en dehors de la lutte contre l'ennemi, les forces de défense et de sécurité ont une autre mission importante qui est de construire la solidarité, l'égalité entre les citoyens burkinabés.
Les Patriotes, la dernière chanson du duo de militaires, la Cour, appelle tous les Burkinabés à s'unir dans ce combat contre le terrorisme. Hervé Somda est l'un des chanteurs du groupe.
Nous invitons tous nos frères d'armes, toute la population et tout le monde à se serrer les coudes pour pouvoir vaincre ce mal. Donc c'est un son d'encouragement à jeter l'adrénaline dans le sang des uns et des autres pour pouvoir parvenir, arriver à vaincre ce mal.
nous pas bouger, on ira nulle part, conclut le patriote. Un refrain qui reflète l'état d'esprit des soldats chanteurs burkinabés. Ils sont là pour longtemps encore.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de vos programmes.
Les infos à Washington.